santé mentale en question.
La santé mentale en question.
On souffre, on a mal, psychologiquement.
On peut plus voyager dans sa tête.
On a envie de s'en sortir, de reprendre confiance en moi.
Les gens ressentent une souffrance et en fait cette souffrance c'est quoi?
Que représente le handicap psychique?
And sympathy is what we need, my friend. 'Cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love.
Dans le handicap, on a perdu quelque chose, mais en même temps, il y a plus d'authenticité dans l'échange.
On leur dit « vous allez mal parce que vous n'aimez pas l'image que vous avez de vous-même ».
La santé mentale en question, Anne Voileau, bonjour. Merci à Marie-Pierre Simon-Corps d'être revenue aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes toujours psychanalyste, directrice d'établissement médico-social, recevant des demandeurs d'asile, responsable mission handicap chez ADOMA. Nous étions en pleine discussion sur l'un des établissements médico-sociaux que vous dirigez, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, avec ce qui vous passionne, le lien entre les personnes. Et nous finirons cette émission sur le stress au travail. Alors surtout, restez à l'écoute sur Vivre FM. Marie-Pierre Simon-Corps, merci d'être venue aujourd'hui. Alors, on a parlé de tellement de choses. Je rappelle quand même, pour les auditeurs qui n'étaient pas hilaires, que vous êtes psychanalyste, responsable de mission handicap chez ADOMA, que vous dirigez un établissement médico-social, que vous gérez des rencontres liens directs, j'en passe et encore. Donc on va revenir sur quelque chose qui était très intéressant, c'est que vous aviez parlé de la loi de 2002 qui dit que, je résume, hein, le patient est aussi client, est plutôt client, et donc on est au service du patient, ce qui ne se passe pas toujours partout pareil. Et vous avez vraiment pris cette loi bien, parce que vous, dans votre établissement, qui n'est pas facile, parce que je vais vous demander quand même de dire ce qu'est cet établissement pour les gens qui n'étaient pas là hier.
Oui, le CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile, accueille des personnes en situation illégale sur le territoire. Soit ces personnes sont rentrées de façon illégale ou clandestine, soit ces personnes arrivent directement à l'aéroport ou d'une autre façon, ont traversé les frontières. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont arrivés par leurs propres moyens et qui font un dossier de demande d'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays,
oui,
et qu'ils craignent pour leur vie.
Et qui risquent leur vie s'ils y retournent.
Voilà, s'ils retournent. Et ça fait partie de l'accueil des réfugiés signé dans la Convention de Genève de 1952.
Oui, ce qu'il faut bien le dire, parce que c'est particulier.
Oui, c'est un cadre administratif très particulier.
Donc, vous avez tout le temps une soixantaine de personnes résidentes, en fait.
Hein. C'est ça.
Et puis, vous gardez d'un 1 à 3 ans suivant là, on va pas revenir sur les détails, mais enfin, c'est de 1 à 3 ans. Et vous êtes pas très nombreux. Vous êtes 8 à 9 personnes pour vous occuper de 60 personnes, ce qui est quand même pas beaucoup. On a demandé d'ailleurs à quelqu'un de la nuit, hein, si je me souviens bien, au directeur général.
Oui, c'est vrai que sur le centre, il n'y a pas de veilleur de nuit, il n'y a pas de concierge ou de gardien. Mais nous avons notre équipe qui vraiment prend en charge toutes ces personnes, quel que soit leur état, quelle que soit leur origine, et qui mettent en place un suivi médical quand c'est nécessaire, et quelquefois leur situation de santé est vraiment alarmante, un suivi administratif pour établir avec elle le dossier administratif de demande d'asile auprès de l'organisme qui s'appelle l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et des apatrides, et puis un suivi social pour mettre en place leur insertion dans cette
leur future,
oui, dans cette culture qui leur est quelquefois très étrangère, puisque c'est des gens qui peuvent venir du Tibet, qui peuvent venir de l'Afrique subsaharienne ou du Sri Lanka, et l'insertion comme ça brutale, ça peut avoir des effets.
Alors c'est vrai que vous avez un personnel donc qui est quand même face à des gens en souffrance, faut le dire, quand ils arrivent, hein, presque tous. Donc c'est ça qui est pas facile de connaître les limites. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? On en a parlé hier. Et alors vous m'avez dit oui, mais ça c'est une chose, mais il y a aussi la sortie. Et ça c'est encore un autre problème.
Oui, le point vraiment délicat et pour le personnel et pour la direction, c'est que cette prise en charge ne concerne que la demande d'asile. Donc quand la personne a reçu une réponse négative de l'OFPRA, elle peut ensuite faire un recours.
Elle reste chez vous.
Là, elle reste chez nous. Elle est toujours en procédure.
C'est une chance.
Voilà. Elle est toujours en procédure. Et elle fait donc un recours auprès de la Cour nationale de demande d'asile. C'est vraiment une cour avec un président et cette cour rend un jugement. Quand ce jugement est rendu, quelquefois, ça prend, comme je le disais, un an et demi, voire deux ans pour statuer sur ces deux demandes successives. Quand la décision est rendue, si la demande est rejetée, la personne doit quitter le centre au bout d'un mois après la notification du refus. Donc ça, c'est extrêmement difficile parce que ces personnes sont venues et c'était tout leur espoir est mis dans la reconnaissance du statut de réfugié qui leur permet ensuite d'être des personnes de droit commun, d'avoir accès au monde du travail, de faire une demande de logement, des demandes d'allocation, de pouvoir avoir accès à tous leurs droits sociaux.
Oui. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cas de refus? Elles font quoi ces personnes?
Alors, en cas de refus,
elles demandent sûrement de rester un peu plus longtemps.
Oui, mais là, nous avons des règlements très stricts et nous avons aujourd'hui, grâce au logiciel informatique qui donne, n'est-ce pas, les renseignements très vite, toutes ces personnes sont suivies par un logiciel et ce logiciel, il est accessible à la préfecture, il est accessible à l'Office français de l'immigration, au ministère, à la DAS. Qui suit aussi ces personnes, puisque l'ADAS, c'est notre tutelle de gestion, et il est aussi accessible à notre direction. Notre mission, qui nous est formalisée à travers une circulaire, donc vous voyez tout le côté administratif de notre mission, prévoit un contrat de séjour que la personne signe, dans lequel est écrit qu'en cas de refus, elle doit partir dans le mois qui suit. Alors vous comprenez bien que ces personnes qui n'ont pas la pratique de tous les circuits administratifs
ni
de la langue, mais ça on les traduit quand même.
Ouais, voilà. Oui, mais après, une fois que vous leur avez traduit qu'ils ont un mois pour partir, c'est compliqué quand même.
Voilà.
Alors est-ce qu'ils ont le droit d'aller chez Adoma? Non, mais je dis ça comme ça parce que vous avez 70 000 lits.
Alors, c'est vrai qu'il y a deux situations. Il y a la situation de ceux qui sont déboutés.
Voilà, il y en a un, on leur dit non.
Et ceux-là n'ont plus aucune possibilité à part de faire encore une demande de régularisation pour raison de santé ou pour raison familiale. Mais ces personnes doivent quitter le centre. Et vous comprenez bien que c'est une situation parfois dramatique pour ces personnes. Elles ont parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Certaines sont venues en famille, ils se sont installés là, les enfants sont allés à l'école, les parents se sont intégrés dans différentes associations, ont pris des activités, se sont installés quand même dans nos logements, et ils doivent en un mois accepter que leur demande est refusée et se dire qu'ils vont devoir quitter le centre. Alors quitter le centre, quand on a un refus de demande d'asile, ça veut dire qu'on va de nouveau être en situation illégale, et puis quel recours on a pour trouver un logement? Parce que...
Oui, c'est une bonne question, quel recours on a?
Quel recours on a? Alors, le problème, c'est que nos administrations, eux, nous demandent d'appliquer les règlements et qu'a priori, n'est-ce pas, si la personne a signé son contrat de séjour à l'entrée, c'est qu'elle est avertie. Alors nous, qui sommes sur
c'est
le
pas
terrain...
pas fou, mais enfin bon, c'est autre chose. On peut signer et espérer, voilà.
Absolument. Et puis c'est aussi, j'allais dire, pour ces personnes, quand vous les accueillez, elles seraient prêtes à signer ce qu'on leur demande de signer. Mais quand on est face à cette réalité...
Et puis elles ont l'espoir aussi d'avoir la demande accordée. Donc,
absolument, absolument. Et puis quelquefois, elles ressentent comme une injustice que cette demande n'a pas été accordée. Pourquoi?
Alors en général, elles refusaient pourquoi? Vous avez des idées ou...
Alors en général, il y a plusieurs situations, mais l'une des situations qui se répète souvent, c'est que la France ne permet plus l'immigration économique. C'est-à-dire que des personnes qui voudraient fuir leur situation misérable, tragique, qui n'ont pas accès aux soins, qui sont peut-être abandonnées de leur famille, en rupture de lien social. Vous savez que l'Afrique a subi, à travers tous les conflits internes, des ruptures de lien social extrêmement lourdes. Vous trouvez des enfants qui errent dans les rues, vous trouvez des jeunes qui sont
sans
famille.
Mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas ça. Au départ, l'asile, c'était l'asile politique.
Voilà. Et maintenant, la seule possibilité de demande d'asile, c'est celle-là, c'est l'asile politique. Vous devez faire la preuve que vous êtes menacé dans votre pays. Donc, les officiers.
Et pas menacés par la misère, menacés par la
politique. Par la misère, absolument. Menacés par la guerre, menacés par des rebelles, menacés parce que vous appartenez à un groupe religieux, minoritaire, qui est persécuté, voyez, ou une menace réelle parce que
Des demandeurs d'asile comme ça politique, il y en a combien à peu près par an, vous pensez?
Nous avons sur notre centre. Une reconnaissance du statut de réfugié de 50%. Donc on peut penser qu'il y a peut-être autour de 50% de personnes qui fuient pour de bonnes raisons l'endroit. Personne ne part de son pays facilement, personne ne...
Mais pour des raisons politiques, réellement politiques, voilà.
Pour des raisons non seulement réellement politiques, mais pour des menaces réelles de mort.
C'est-à-dire qu'on
peut avoir milité dans un parti qui est un parti clandestin, mais si vous ne prouvez pas que vous risquez des menaces de mort, et si vous rentrez chez vous... ça ne relève pas de l'asile politique.
Donc vous les aidez, vous avez des avocats qui les aident à monter ces dossiers.
Exactement, qui les aident à monter leur récit,
leur dossier. Donc ça doit pas être tout à fait facile de savoir si le récit, parce qu'après, on peut arranger un récit.
Ça c'est la liberté qui est donnée à chacun. Il faut dire aussi...
Enfin, vous devez les prévenir que il y a un moment où ça va se voir, où ça va... se révéler.
Oui, mais il faut dire aussi qu'on a affaire à des mentalités très différentes des nôtres. Vous savez, ces personnes-là peuvent tout à fait avoir subi des menaces réelles pour leur propre sécurité, mais se rappellent pas exactement la date. Ou confondent les lieux, parce que ça s'est passé ici, puis ça s'est passé là. Et puis, il faut dire que la dimension du temps, de l'espace, de la précision, n'est pas forcément la même que chez nous. Et si quelqu'un se trompe de date, alors quelqu'un qui est arrivé et qui a été menacé pendant plusieurs années à différents endroits, s'il se trompe de date, on peut lui dire « Ah, mais comment ça se fait ?»
C'est pas possible.
C'est pas possible. On peut aussi lui dire vous étiez menacé, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas allé dans le pays limitrophe ? Pourquoi vous êtes venu en France ? Vous auriez très bien pu vous réfugier dans un pays voisin. On peut aussi leur dire vous ne faites pas la preuve. Et vous comprenez que dans notre système administratif et judiciaire, nous savons un peu ce que c'est que faire la preuve. Certaines personnes de cultures très différentes n'en voient pas forcément.
Ils n'ont pas forcément la preuve.
Oui, et d'autres ne veulent pas raconter ce qui s'est passé aussi. D'autres ne veulent pas raconter. Ils veulent pas se souvenir. Ils veulent pas raconter. Et ça, ça peut les mettre aussi en difficulté. C'est très complexe, oui. Et puis, il y en a, mais je crois que c'est un tout petit nombre qui essaye de prendre un récit qu'on leur a plus ou moins fabriqué.
Ça, c'est humain, je dirais que c'est de façon
générale. C'est humain et c'est vraiment marginal. C'est marginal.
On va se faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite. Marie-Pierre Simoncor, c'est très passionnant. On est suspendu à ce que vous dites, parce qu'en fait c'est passionnant votre vie. Hein. Psychanalyste toujours et directrice d'un établissement Lien Direct. Enfin, et là on était sur cette difficulté, je pense effectivement dans un établissement qui reçoit des personnes demandeurs d'asile, d'un moment où on doit leur dire, même si c'est entre 1 an et 3 ans, maintenant soit vous avez pas été, on vous a pas accordé ce que vous demandiez et vous devez partir, soit on vous l'a accordé, il faut qu'ils partent aussi.
Oui, dans tous les cas, il faut partir.
Voilà,
dans tous les cas.
Difficile.
Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que toutes ces personnes ont créé des liens. D'abord, ils ont créé des habitudes. Et on sait, chacun d'entre nous sait l'importance d'avoir un certain nombre d'habitudes pour avoir un sentiment d'apaisement. Ça, c'est
humain. On se raccroche au quotidien, à l'habitude, à ce qui est connu.
Ouais. Et oui. Et puis, un certain nombre de liens avec nos équipes, avec nos intervenants. Et quand il faut partir, c'est toujours difficile. Alors, c'est vrai que ceux qui ont été reconnus comme réfugiés peuvent se dire, bon, on est venu, on a été reconnu, maintenant, c'est quand même quelque chose qui va nous supporter. Eh bien, l'expérience nous dit pas exactement les choses comme ça. Quelquefois, c'est une vraie déprime, y compris le fait d'avoir été reconnu comme réfugié. Quand on est reconnu comme réfugié, ça veut dire aussi qu'on ne pourra plus repartir dans son pays. Et souvent, on se rend compte que les personnes gardent un espoir.
Ben oui,
un
bien
espoir,
sûr.
Elles même dans la
forcées.
Demande,
elles
voilà,
sont
elles sont parties forcées, ouais. Elles gardent un espoir que peut-être on va quand même pouvoir revenir. Et la situation administrative du réfugié leur interdit de revenir dans leur pays. Et je crois que c'est pour un certain nombre d'années, au moins 5 ans.
5 ans, je pense, oui. Oui, donc c'est vrai que... Et puis c'est, tout n'est pas réglé. Ils n'ont pas forcément de travail, ils n'ont pas forcément... Ça ne règle pas toutes les situations.
Alors, tout n'est pas réglé. Et justement, cette sortie, c'est l'occasion de faire un travail avec ces personnes-là pour qu'elles se rendent bien compte que quand même, elles voulaient venir en France, elles y sont. Et c'est quand même ça qui est important.
Voilà.
Ensuite, eh bien, nous sommes comme tout le monde. Nous ne pouvons pas tout leur assurer. Voilà. Je crois qu'il y a une dimension là importante à préciser. Ils ont
mais
été accueillis.
Je pense
accueillis.
Que vous le précisez dès le début un peu.
Oui, mais je pense qu'à la sortie, il faut que ça devienne quelque chose de réel. Ils ont été accueillis. C'est vrai que l'accueil prend fin. C'est vrai qu'il va falloir partir, soit dans une proposition de logement qui n'est pas toujours quelque chose de forcément très qui correspond exactement à ce qu'ils attendaient, soit il va falloir partir en sachant qu'on n'est pas réfugié, donc d'ici quelques semaines on sera de nouveau en situation irrégulière sur le territoire et donc dans une situation qui est précaire et qui peut à tout moment basculer vers un retour au pays forcé, hein, une reconduite à la frontière, c'est comme ça qu'on dit. Mais moi, ce que j'essaye de mettre entre ces personnes et nous, c'est toute la démarche qu'elles ont faite, et celle-là, elle est là, elle leur appartient, et celle-là, personne ne peut y toucher. Donc, le côté administratif, c'est, j'allais dire, le poids de nos sociétés occidentales. La France, là-dedans, j'allais dire, est très performante sur le nombre de...
Une fois qu'on est performant dans quelque chose,
voilà,
l'administratif, c'est bon.
Sur l'administratif, là, la France est très performante. Ils ont pu bénéficier de tous les recours. Ils ne sont pas menacés physiquement, puisqu'ils ont fui une menace quand même... une menace de mort, hein, il faut le dire. Donc maintenant, il va falloir qu'ils trouvent les ressources en eux-mêmes pour faire face à leur nouvelle situation. Et là, la France, comme n'importe où ailleurs, il n'y a personne qui peut vous garantir complètement votre avenir.
De toute façon,
hein? Nulle
pour
part,
qui que ce soit.
Voilà, nulle oui. part pour qui que ce soit. Et c'est un peu avec ce type de discours qu'on arrive à rassurer les personnes et à leur faire accepter qu'effectivement, il faut faire les cartons, il faut mettre les affaires dans les valises et il faut nous dire à quelle date on va les aider à déménager et où elles vont pouvoir trouver un abri. Hein, ouais. C'est un peu comme ça.
Alors
que ça
là,
se passe.
Alors chez Adoma, là, j'en reviens où vous êtes responsable des missions handicap. Là, vous pouvez leur trouver des logements.
Alors chez Adoma, bien sûr, ceux qui sont réfugiés ont fait des demandes de logement dans les foyers. Et ça, c'est, j'allais dire, le privilège de ceux qui rentrent dans les CADA Adoma. On a donc, nous, 6000 demandeurs d'asile qui nous sont adressés. Et c'est vrai que par rapport aux autres opérateurs...
Voilà, ça, c'est génial.
Voilà.
Et je comprends pourquoi vous êtes sur les deux pôles. Je commence à comprendre.
Nous, on peut faire des dossiers qui sont quand même plus facilement accepté auprès de nos résidences sociales et des foyers de travailleurs, et à peu près tous les réfugiés, on leur propose une solution d'hébergement.
C'est génial, ça.
Ça, c'est ce qui est un grand privilège d'arriver chez Adoma.
Et puis peut-être aussi, comme vous êtes aussi là-bas, c'est aussi de pouvoir avoir des nouvelles, de pouvoir les suivre, parce que c'est quand même agréable de te suivre quelqu'un qu'on a aidé pendant quelques années.
Oui. Et là, c'est vrai que ça, c'est vraiment, comment je peux dire, un retour qui vraiment,
qui nous aide
à savoir si ce qu'on fait, ça s'inscrit dans des bonnes pratiques, puis j'allais dire plus simplement si ce qu'on fait c'est bien, si ça tient.
Ou si ça sert. Et voilà.
Donc quand on voit revenir des personnes qui ont été réfugiées, mais aussi des personnes déboutées qui reviennent quelques mois après ou une année après et qui nous donnent de leurs nouvelles, qui reviennent avec le bébé qui a maintenant un an ou deux ans de plus, qui nous envoient une carte postale ou qui reviennent en situation un peu difficile, délicate.
Et quand même donner leurs nouvelles.
Et qu'on invite à déjeuner avec nous au centre, et puis à qui on donne en même temps un petit quelque chose pour repartir, parce que voilà, on a quand même ce
génial,
lien humain.
Et, heureusement.
Et on y tient.
Alors, comment vous êtes passé, vous vous occupez aussi, encore la dernière chose qu'on n'a pas vue, du stress au travail. Alors, là, je comprends, remarquez, parce que là, vous avez du stress dans votre travail.
Oui,
donc vous savez ce que c'est que le stress au travail.
Vrai.
Alors, est-ce qu'il y a un travail sans stress pour la psychanalyse que vous êtes?
Je crois que notre époque actuelle, amène un grand nombre de personnes à subir ce qu'on appelle, sous ce terme générique, d'ailleurs c'est un terme anglo-saxon, qui ne permet pas dans un premier temps de bien identifier les difficultés qui sont ressenties comme souffrance au travail, puisqu'on appelle aussi ça souffrance au travail.
Mais stress, il y a un côté stress, là ça dit bien quand même ce que ça veut dire.
Oui, ça dit bien ce que tu veux dire, et c'est vrai que ça donne envie de questionner plus précisément qu'est-ce qui fait que dans notre société où on nous dit qu'on doit s'épanouir sur le lieu de travail, mais aussi dans les missions qu'on accomplit, dans la place qu'on accomplit par son travail.
Ce qui n'est pas faux d'ailleurs.
Ce qui n'est pas faux et ce qui n'est pas nouveau.
Voilà.
Hein, puisque tenir sa place dans la société, c'est aussi avoir une fonction et participer à la vie collective. Donc c'est bien, d'une façon ou d'une autre, accomplir un travail. D'où aussi l'extrême souffrance de ceux qui en sont exclus.
Voilà, tout à fait.
D'où l'extrême souffrance.
Ou d'un seul coup, les gens qui travaillent beaucoup, qui se retrouvent à la retraite sans être préparation, ou ceux qui en sont exclus. Donc il y a un côté épanouissant dans le travail, je l'admets. Alors, quel est le côté stressant et souffrant?
Alors, c'est vrai que quand aujourd'hui on fait état dans la presse de personnes qui sont allées jusqu'au suicide parce qu'elles ne pouvaient plus soutenir la situation de pression et la situation intenable qu'elles avaient dans leur fonction, dans leur mission ou dans les objectifs, c'est vrai qu'on se dit maintenant c'est plus un cas isolé, parce que de façon quotidienne et de façon banale, les personnes vraiment se trouvent en situation de mal-être.
Oui, excepté qu'on, dans les cas étudiés par les psychiatres, ils ont découvert quand même qu'il n'y avait jamais 100% de travail. C'est toujours un mélange entre une situation familiale, un travail, un environnement. Les deux jouent. Le travail n'aide pas, mais les deux jouent quand même.
Oui, alors c'est vrai que on peut dire aussi que notre société a quand même certaines caractéristiques qui nous interpellent, nous comme psychanalystes, mais aussi des psychosociologues, des intellectuels. C'est vrai qu'on est quand même dans une société qui favorise l'individualisme. Donc, si vous réussissez, souvent, vous réussissez seul, qui aussi a une dimension d'isolement des personnes. Vous allez travailler à une heure et demie de chez vous, vous rentrez, vous connaissez.
On n'est pourtant pas seul dans le RER, hein, mais bon.
Oui, 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 on n'est pas seul, mais c'est vrai que on peut côtoyer des centaines de personnes et avoir ce sentiment,
oui.
Voilà, ce sentiment d'isolement dans votre quartier souvent les personnes connaissent pas beaucoup de voisins. Vous avez des situations qui sont critiques et personne n'était au courant. Donc il y a quand même un phénomène d'isolement. On nous dit que nos institutions ne tiennent plus la place qu'elles tenaient avant, et ça c'est sûrement quelque chose de réel. Avant elles tenaient peut-être trop la place de façon trop rigide. Maintenant elles manquent un peu de soutien auprès des personnes.
Mais alors est-ce qu'on n'en demande pas trop aussi aux institutions et que les gens pourraient aussi faire quelques pas eux-mêmes, parce que si on attend tout de l'État ou des institutions, on peut toujours tendre quand même.
Oui, mais le côté de l'institution, il a un côté de stabilité. Voilà. Quand vous savez ce qu'on attend de vous, et quand votre tâche est à peu près identifiée, eh bien, ça constitue un cadre, et chacun, on a besoin d'un certain cadre symbolique, mais aussi d'un certain cadre réel pour pouvoir accomplir les tâches qu'on a à accomplir. Si vous changez d'appartement tous les jours, vous allez à un moment même plus pouvoir vous sentir chez vous.
Hein? Changer l'hôtel. C'est pas mal non plus, ça.
Alors, c'est vrai que dans l'entreprise, on est quand même aujourd'hui dans une atmosphère d'accélération. Il faut voir à quelle vitesse les choses changent. D'abord,
ça va très vite justement, parce que là, on va faire une pause musicale et on revient dans l'accélération des entreprises.
Oui.
Nous sommes toujours avec Marie-Pierre Simoncor, psychanalyste, et je passe toutes les casquettes parce que les gens ont écouté l'émission, donc vous avez. Et c'est vrai qu'on est en train de parler de souffrance ou de stress au travail, mais en même temps, on disait que les personnes qui se suicident, il y a toujours un mélange de familial, de problèmes familiaux, de problèmes d'environnement aussi. Alors c'est vrai que on est dans une société quand même, on vous dit épanouissez-vous, vous, hein, d'abord, soyez heureux, prenez des amants. Enfin, on a l'impression que on ne peut être heureux que tout seul.
Oui, c'est vrai que notre société favorise cet épanouissement individuel.
Mais qui marche pas, hein. Pas vraiment.
Non, qui marche pas vraiment, mais dans un premier temps, elle donne l'illusion, n'est-ce pas, que toute la technoscience et toutes les différents objets à notre disposition vont pouvoir
compenser,
oui, et vont pouvoir avoir un effet satisfaisant, rapide et assez direct. Vous voyez, quand vous êtes seul, soit vous mettez les écouteurs avec le iPhone,
ce que vous voulez, oui.
Voilà. Mais s'il faut aller voir la voisine et prendre de ses nouvelles, là, vous voyez, c'est déjà une démarche qui est plus compliquée et moins directe.
Oui, il faudrait qu'elle se mette sur Facebook. À ce moment-là, certains la verraient sur Facebook.
Voilà,
mais sinon,
voilà,
non.
On pourrait parler comme ça entre voisins à travers Facebook.
C'est ce qui arrive, hein,
c'est ce qui se fait aussi. C'est ce qui se fait aussi.
Alors ça, c'est tout, aussi une ambiance qui n'est pas épanouissante, contrairement à ce qu'on veut bien nous faire croire. Et alors au travail, ça va vite.
Oui, au travail, moi-même, je l'ai remarqué, puisque je suis dans une entreprise, on est en perpétuel changement. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui changent de mission, qui changent de travail, votre poste de travail change. Si on trouve que les locaux sont plus adaptés ailleurs, on va déménager votre bureau. Souvent, les personnes arrivent à déménager de bureau deux ou trois fois sur 2-3 ans. Vous allez travailler avec des collègues qui sont là en emploi précaire, c'est-à-dire en emploi partiel ou bien en contrat à durée déterminée. Et vous allez avoir aussi des procédures qui vont être en constante modification, puisque on est dans une situation, comme on nous dit, de concurrence mondiale et qu'on doit être toujours plus efficace avec des coûts de fabrication toujours plus bas. Donc, ce qui a été pris comme direction dans les processus de fabrication, c'est d'établir des référentiels et des procédures extrêmement détaillées, et ces procédures changent régulièrement pour s'adapter à des nouveaux produits, à des nouvelles technologies, à des impératifs de rentabilité. Et c'est vrai que ça devient pratiquement un pilotage automatique qui devrait fonctionner sans aléa, c'est-à-dire sans que personne puisse modifier cette ou s'approprier ces processus de fabrication.
Il y a des personnes qui adorent le changement. Est-ce que c'est une question d'éducation, le fait qu'on n'est pas du tout en France dans le changement, ça vient d'où ?
Il y a peut-être une particularité française, c'est vrai, qui est attachée à une certaine tradition. Vous savez qu'on a le plus grand nombre de fonctionnaires et que toute notre organisation vise effectivement, d'une certaine façon, à une certaine stabilité. On n'est pas en France, je crois, très motivé par la course au profit.
Moi, je vois le changement plus comme une créativité, comme une possibilité de s'enrichir d'autre chose.
Oui, mais dans ce cas-là, il faut que le changement, chacun y soit associé, qu'il fasse sens, vous comprenez. Si c'est un changement qui vous est imposé de l'extérieur, et si en plus les conditions pour le mettre en œuvre sont contradictoires, vous comprenez que quand on a des impératifs de faire mieux avec moins de moyens, ça devient un vrai casse-tête. Comment ?
C'est un changement positif.
Voilà. Et en plus, on attend de vous que, effectivement, ça se réalise. Alors, des injonctions contradictoires, même moi, en tant que directrice d'établissement médico-social, on en a, puisqu'il faut assurer le bien-être des personnes, mais il faut quand même qu'elles sortent dans le temps au bout d'un mois. Et puis, il faut que on maintienne des bonnes pratiques, mais on n'a plus de situation de relais pour des personnes en difficulté. Vous comprenez que quand les personnes se sentent avec des injonctions contradictoires et qu'elles ne peuvent plus assumer la mission qui leur est confiée, eh bien, c'est pour l'encadrement intermédiaire souvent des situations
de stress.
De stress et face à ces situations où on a énormément de mal à savoir est-ce que je suis autorisée à prendre telle décision. Parce que dans ce système qui est très complexe mais très procéduré, a priori, quand on cherche face à un aléa, et vous savez que des aléas, plus vous tirez sur la corde, plus les aléas, voilà, hein, plus on est dans une situation instable qui se modifie de plus en plus vite, plus les aléas arrivent. Et toutes ces procédures qui sont très automatisées, très informatisées, avec bien sûr toutes les évaluations, les contrôles qualité qui vont avec, eh bien quand il y a un aléa, à qui on va s'adresser ? Et c'est là que on se rend compte que est-ce qu'on va aller directement sur la machine voir ce qui se passe ? Ah, là vous prenez des initiatives qui sont peut-être pas celles qu'on attend. Donc si vous ne savez pas quoi faire,
on bloque, ouais.
Voilà. Si vous ne savez pas quoi faire, eh bien, quelqu'un vous dira.
On bug.
On fait un mail. Voilà. C'est quand on ne sait plus quoi faire,
hein. On ne sait pas à qui on le fait quelquefois.
Et quelquefois, il faut bien voir à qui on le fait et ce qu'on écrit. Donc, on est maintenant de plus en plus, et les personnes, je pense que c'est là une souffrance réelle, que d'être dans une situation où l'impuissance, je dirais ça comme ça, l'impuissance est à son maximum.
En fait, ce que vous décrivez, c'est une déshumanisation, et ça, c'est ce que vous remarquez qui cause le plus de souffrance.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis, comme vous le dites, certaines personnes aiment que ça change, sont créatives, mais pour un grand nombre de personnes à des niveaux de qualification, de base, eh bien, ces personnes-là, elles ont beaucoup de mal avec un changement qui, pour elles, ne s'inscrit pas dans une dimension stratégique de l'entreprise, par exemple, vous comprenez. Alors, d'un côté, vous avez l'encadrement de base qui se trouve dans cette situation d'impuissance maximum,
subi, en fait, hein, subi.
Et à qui on demande des comptes, il faut quand même que ça marche. Et puis vous avez parfois, ça c'est ce qui arrive parfois, la nomination d'un nouveau directeur général, parce que vous savez que les directions changent, les conseils d'administration nomment d'autres personnes, qui lui va montrer, parfois ça arrive, hein, il faut le dire, qui lui va montrer qu'il est tout puissant. Il va pouvoir vendre cette division, externaliser cette production, faire une nouvelle fabrication, proposer une nouvelle organisation. Alors là, les personnes se trouvent dans une situation de devenir complètement étrangère à cette mission qui leur est confiée. Et effectivement,
ils ne savent même plus quelle est la mission.
Hein. Voilà, ils savent même plus quelle est la mission. Voilà, oui.
C'est une chose de le constater, mais comment peut-on y remédier ?
Alors, il se trouve aussi que la situation de l'emploi en France ne permet pas une réaction, j'allais dire, la plus directe et la plus salutaire, c'est bah, de changer, de trouver un autre endroit, une autre équipe, un autre poste. Aujourd'hui, le travail est rare et, comme vous le savez, on a beaucoup de difficultés à prendre des jeunes qui n'ont pas
déménager,
oui,
changer de région,
oui,
ça quelquefois on pourrait le faire.
Aussi, oui. Aussi. Mais si les deux travaillent dans la même région, ça pose des problèmes familiaux. Mais aussi, si vous n'avez pas exactement le bon profil, le bon parcours, l'âge qui convient, vous ne trouvez pas d'alternative. Et là, la personne peut se sentir complètement coincée, complètement perdue, en se disant « je n'arriverai pas à résoudre cette situation, je suis dans un impossible complet dont je ne sortirai pas ». Et là, ça peut amener à des actes désespérés, effectivement.
C'est vrai que ce que vous décrivez, ce n'est pas le travail, c'est une société qui n'a pas l'esprit ouvert et qui ne bouge pas.
Oui, c'est vrai pour tous ceux qui sont embarqués dans cette accélération dont plus personne ne peut mettre un arrêt, puisque c'est une logique qui entraîne tout le monde, absolument. Alors là-dessus, on peut dire, si on veut revenir sur...
Sur une note optimiste.
Oui, on peut dire que la loi de 2005 qui vient... renforcer la loi de 1987 sur l'obligation de l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises, on peut dire que cette loi, c'est un véritable enjeu.
Je dirais, puis bouffée d'oxygène, peut-être.
Oui.
D'un seul coup, ça apporte autre chose.
Voilà.
Rien devient important.
Voilà. Tout d'un coup, on va essayer d'intégrer quelqu'un qui, par sa situation, fait partie du collectif, quelqu'un qui a sa place, mais quelqu'un qui était déjà mis à l'écart,
qui était
différent et qui était déjà mis à l'écart. Et ça, je pense que la loi de 2005, faisant obligation aux entreprises, permet vraiment de prendre, pour une grande part, de prendre conscience de cette dimension
et
d'obliger à le faire. Parce que c'est vrai qu'avec cette loi, un certain nombre d'entreprises ont créé cette mission handicap, ont un budget, parce que quand on veut agir sur le déroulement des choses, il faut toujours un petit peu d'argent derrière.
Hein ?
Donc, ces entreprises, par l'obligation qui leur est faite, comme ça, c'est pas simplement une envie personnelle ou quelque chose qui serait de votre propre charisme, c'est une obligation.
Ça va dans le bon sens.
Absolument.
Merci encore d'être venu. Je pense qu'on vous recevra à nouveau, car vous avez encore plein d'autres choses à nous raconter.
Merci à vous. Au revoir.